Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Louis Gerbier.
Good morning lads, bienvenue dans ce nouvel épisode du paddock RMC pour débriefer le British Grand Prix, un Grand Prix assez fou, ce qui est souvent le cas quand la pluie s'en mêle, et qui a vu une deuxième victoire consécutive de Lando Norris qui remporte son home Grand Prix pour la première fois. Deuxième, Oscar Piastri dans l'autre McLaren, et troisième, vient à point à qui sait attendre, Nico Hülkenberg. Notre équipe de folie, les amis, je vous la présente tout de suite avec notre team principal, Jean-Luc Roy-Kenberg. Salut Jean-Luc.
Formidable. Salut mon Louis, bonjour à tous.
Et nos ingénieurs, Séraphin Bettenberg. Salut Séraphin.
Salut Louis, salut à tous.
Et Tristan van de Drieschenberg, impossible à dire. Salut Tristan.
Guten Tag en allemand à la Nico.
Bah ouais, j'étais obligé quand même de faire une dédicace à l'homme qui a eu besoin de 239 Grands Prix pour monter sur la boîte. Je vous donne donc le sommaire tout de suite. Évidemment, on commencera par Nico Hülkenberg. Ensuite, on parlera de Norris qui récidive et de Piastri, est-il finalement si invincible? Antonelli qui va être prolongé ou qui est même prolongé, Séraphin nous en dira un mot, mais qui est dans une dynamique quand même bien mauvaise. Ensuite, on parlera de Ferrari, Hamilton, à ça du podium chez lui, lui qui est toujours sur la boîte normalement, et de Vasseur qui finalement serait peut-être prolongé, avec même peut-être plus de pouvoir, lui qui était sur la sellette, si on écoutait la presse italienne il y a encore peu de temps. Et puis les amis, là, tremblement de terre. Max Verstappen a fait une erreur. C'est quoi ça? J'avais jamais vu ça sous la cinquième. Et puis on parlera de l'autre driver of the day sur notre point des Français, avec Pierre qui fait une course magnifique. Et puis évidemment, le point sur les Français, on parle de tous les Français. Donc on aura un petit mot pour Isaac Hadjar et Esteban Ocon. Allez, le tour de chauffe du débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne est terminé. Les gommes sont à température. Éteignez les feux, c'est parti! Bon alors les amis, c'est ce qu'on voulait jeudi lors du warm-up, c'est ce qu'on a eu, un Grand Prix assez fou, de la pluie, pas mal de choses en piste et en dehors, tout ce qu'on aime et surtout, après 239 Grands Prix sans y arriver, Hülkenberg qui pourtant partait 19e nous a tous surpris et a réalisé un Grand Prix de folie et monté sur la 3e place du podium, le best of the rest derrière les deux McLaren. Jean-Luc, t'y croyais encore toi, Hülkenberg sur un podium?
Ouais, c'est toujours facile de dire oui après. Alors non, j'avoue qu'honnêtement, en tout cas pas si tôt, je me disais qu'effectivement avec tous les fonds investis, tous les recrutements énormes et l'ouverture d'un centre britannique à Bicester, il fait beaucoup parce que les Britanniques, ils sont comme tout le monde, ils n'aiment pas beaucoup voyager parfois et pas forcément aller en Suisse. Donc le fait d'ouvrir ce centre de recherche et de développement, on ne sait pas exactement, nous, on ne sait pas ce qui va être fait à l'intérieur, mais c'est sûr que ça va permettre des changements d'équipe, puisqu'on est évidemment dans la vallée royale de la Formule 1, toutes les équipes sont très proches les unes des autres, donc c'est une bonne chose, le résultat est là, puis je crois que chez Sauber, on a choisi de continuer évidemment à développer, on le voit, puisque ça fait 4 Grands Prix maintenant que les résultats sont en hausse, c'était pas compliqué, tu me diras, ils faisaient rien avant, donc là, ils commencent à marquer des points régulièrement, je suis ravi, non, je l'ai pas vu venir, je sais pas si lui l'a vu d'ailleurs, il a fallu des circonstances exceptionnelles, et notamment, je vais continuer à faire la danse de la pluie tout le temps, tu vois, avant chaque Grand Prix, des fois, ça marche.
Séraphin, toi, comment t'étais devant ta télé quand t'as commencé à comprendre qu'il allait le faire? Parce que c'était pas la première fois, je me souviens d'une fois dans le baquet Renault, pareil, il y a un cirque, je crois que c'est en Allemagne, et on se dit, il va le faire, et en fait...
À Hockenheim, ça.
À Hockenheim, exactement, il finit dans le mur, et là, on se dit, en fait... Voilà, il le fera jamais, c'est dans la tête, c'est je ne sais pas. Et là, finalement, devant ta télé, t'étais comment dimanche? Tu t'es dit quoi?
Je suis d'accord, ça a presque masqué finalement la victoire du Britannique Lando Norris, parce que il y avait une énorme émotion juste avant de passer effectivement le drapeau à damier. Et il y a eu aussi une belle bataille quand même aussi avec Lewis Hamilton, pardon, pour cette troisième place jusqu'à la fin, lui qui était en pneu soft, Hamilton. Et ouais, il y a vraiment allé la chercher, celle-là, en fait. C'est un Grand Prix où il fallait essayer de voir un peu comment la piste est séchée. On a vu plein qui se sont fait piéger sur les arrêts au stand. Donc il fallait faire le bon call au bon moment et puis avoir cette régularité, pas faire d'erreur. Et il fait partie de ces pilotes effectivement qui ont fait une course parfaite, maîtrisée. Jean-Luc il l'a dit, ça fait 4 Grands Prix quand même que Nico Hülkenberg marque des points. C'est significatif pour l'écurie Sauber qui remonte bien au classement. Et donc, c'est très, très positif de faire un résultat comme ça. Et ouais, c'est une grande, grande émotion pour un pilote. C'est quand même 15 saisons en Formule 1. Il avait fait, j'ai regardé un peu, il a fait quand même 3 fois, il avait fait 4e. Mmh. Donc, il n'était pas passé loin.
Il
fait une pole, exactement. Au Brésil, c'est ça, je crois, Jean-Luc.
Ouais, et sous la pluie, dans des conditions changeantes, pareil, c'est un signe. Ça.
En plus. Donc, non, c'est ce genre de pilote d'expérience qui fait la différence dans ce genre de conditions quand il pleut, et on voit depuis les quelques années que voilà, quand il y a ce genre de conditions, on s'attend à plein de choses, plein de rebondissements, et donc non, c'est une grande émotion et une grande joie, et je pense que ça a été aussi partagé de manière globale dans les paddocks, que même les autres écuries, les autres pilotes évidemment qui l'ont félicité pour ce résultat.
Ouais, c'est clairement ça, on a senti une joie globale. On a vu Max Verstappen dès le tour de décélération, le tour d'honneur, venir plus que le saluer en fait. Il est vraiment dans ses gestes, on sentait qu'il était presque aussi content que lui. On a vu aussi à la radio, il y a quasiment tous ceux qui avaient accès à la radio dans le garage Sauber qui ont pris la radio pour féliciter Nico, jusqu'à Gabi Bortoletto, son coéquipier, qui avait l'air aussi plein d'euphorie. Donc c'était super. On a aussi vu les écuries toutes ramener des bouteilles de champagne dans le garage Sauber.
Oui, ils n'avaient pas l'habitude d'en avoir.
Et voilà, je pense que Sauber, quand ils partent sur un week-end, ils se disent bon, il faut gagner un peu de poids quelque part. Bon, enlève le champagne, mon gars, je pense que ça ne va pas être pour ce week-end.
On risque rien.
Bon, bah, il s'avère qu'une fois, il fallait l'avoir. Donc on a vu ces images qui étaient très marrantes. Mais pour revenir sur la course, c'est ce que Jean-Luc et Séraphin ont dit. En effet, ces quatre derniers Grands Prix dans les points, mais il partait pas dans les points. Il partait 16e en Espagne, il finit 5e, il partait 13e au Canada, il finit 8e, il partait 20e en Autriche, il finit 9e, et hier, on l'a dit évidemment, il était 19e, il finit 3e. Donc en plus, c'est que c'est devenu le spécialiste des remontadas, Tristan.
Bah, et puis on voit un petit peu un phénomène qu'on voit avec d'autres équipes aussi, c'est que c'est tellement serré que certains pilotes choisissent de faire des setups un peu plus axés sur des conditions soit le samedi, soit le dimanche. Et on a l'impression en tout cas qu'Hülkenberg, parce qu'il se fait aussi, encore une fois, sur ce Grand Prix, il se fait battre par Gabriel Bortoletto, alors il est 17e et Nico Hülkenberg par 19e, donc c'est pas non plus, il se fait pas écraser par Gabriel Bortoletto, mais ça a l'air d'être aussi un choix qu'il a fait, Nico Hülkenberg. Il a probablement vu aussi que les conditions le dimanche allaient être changeantes, il s'est peut-être dit, bah voilà, je vais mettre un petit peu plus d'aéro ou des choses comme ça, et ça fait partie des choix que certains pilotes font, comme on l'a vu avec Pierre Gasly aussi, mais lui qui fait le choix inverse avec les qualifs. Donc sincèrement, quand je l'ai vu samedi faire 19e, j'en ai parlé à quelqu'un, j'ai dit bah nickel, il fait 19e, on le verra dans les points demain, et en fait c'est vraiment ce qui s'est passé, il a même fait un podium. Donc pas étonné, et même si au final ça fait bizarre de le voir sur le podium, lui qui le cherchait depuis si longtemps et qui avait même quitté la F1 pendant un moment. Mais non, on sait que Silverstone c'est aussi un petit peu son circuit, parce qu'on se souvient de 2020 avec la Racing Point quand il remplace Sergio Perez qui avait le Covid, ou 2021, je sais plus, 2021 pardon, et où il fait 3e en qualif je crois, ou quelque chose comme ça. Donc un vrai pilote.
Victorieux au Mans
en 2015.
Dans une Formule 1, c'est là où il a été très fort.
C'est un pilote qui a vraiment du talent pur et qui n'a pas forcément eu toujours les bonnes monoplaces au bon moment. Donc ça se voyait que le paddock était content pour lui, parce qu'il le mérite.
Ça se voyait. Alors Tristan, il nous dit ouais, j'étais pas si surpris que ça et tout. T'as parié?
Non,
bah alors tu croyais pas.
J'ai pas parié.
Non, mais c'est bon, les mecs qui arrivent après la bataille.
J'avoue, j'ai cru au podium de Lance Stroll. J'y ai cru pendant un moment.
Oui, il était situation.
Mais. Juste,
il va falloir en parler, hein, même si vous n'avez pas envie. Mais
avant de l'écouter, Nico Hülkenberg, quand même, on va écouter sa joie. Pas du tout extatique d'ailleurs, hein, très allemande, hein, tranquille, content. Il vous dira même qu'il est un peu fatigué. Franchement, ce qui a été surprenant dans tout ce week-end-là, c'est moi, je trouve, c'est comment tu fais 19e, tu peux être 3e en fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un délire dans la réglementation où il y a des choses que... Enfin, moi, je crois pas... On n'est pas Jean-Luc, tu vois, on n'est pas tous des encyclopédies, mais je crois pas avoir vécu des moments comme ça où tu peux te retrouver entre Q1 et Q3 pour un dixième, et après et à l'inverse finalement le dimanche avec une course. Alors là, tu vas me dire, il y a de la pluie, il y a tout
avec
ça.
Avec la pluie, bon Louis.
Exactement, il voilà, y a beaucoup de pluie, ça se range. Mais est-ce que dans d'autres phases, Jean-Luc, on a pu voir des choses comme ça, même s'il y a la pluie ou pas, à ce point-là, en fait, de voir des voitures pouvoir passer de 19 à 2, enfin 19 à 3, même si évidemment il y a des circonstances, j'ai l'impression que c'est quand même un des choses qu'on arrive à voir cette saison plus souvent qu'avant.
Oui, pour la raison que tu as évoquée en préambule, c'est qu'ils sont très très proches les uns des autres. Hein. Je regardais les temps pendant que, il y a un instant, vous évoquiez les positions. Donc, Bortoleto était 16 en 1:26.446, Hülkenberg 19 en 1:26.574.
Ah ouais, c'est incroyable.
Vous vous rendez compte, il y a un gros dixième et on passe de 16e à 19e. Ça veut donc dire, dans l'autre sens bien sûr, qu'il suffit de gagner un petit peu. Ou, ce que vous avez évoqué, on va évidemment en reparler longuement pour ce qui concerne Verstappen, quand on fait des choix aéro ou autres, privilégiant la performance sur un tour ou des circonstances de course, en l'occurrence le fait que ce soit sec ou mouillé, eh bien naturellement ça se retrouve et en course c'est décuplé. Parce que là il y a 52 tours et puis en plus le scénario, cette fois-ci, alors là aussi j'ai regardé l'an dernier, en gros ils ont tous mis les pneus intermédiaires au 28e tour et puis il y a eu un intermède mouillé. Et puis ensuite, on est repassé au sec. Là, si vous écrivez le scénario de cette année, c'est joyeux, hein, parce que entre le départ sur piste très humide allant en s'asséchant, certains donc, qui choisissent, on va en reparler aussi, malheureusement pour eux, de changer de pneumatique avant même le départ du Grand Prix, et là, ça y est, ils sont morts, quoi, mais on le sait qu'après, bien sûr. Ceux qui, comme Stroll, le voilà, qui sont partis en intermédiaire, qui s'arrêtent, qui remettent des slicks pour deux tours ou trois tours, c'est absolument incroyable. Donc oui, pour te répondre, Louis, il faut un scénario incroyable pour favoriser ça. Et il faut, à l'inverse, que ça a été le cas. Hülkenberg a fait la course parfaite et son équipe également.
Eh oui. Mais pour faire un podium, il faut souvent, surtout quand tu es dans un tracteur, faire une course pas loin d'être parfaite. Mais est-ce que finalement, Gasly n'aurait pas pu être à la place d'Hülkenberg? Parce qu'en début de course, il y a un moment quand même où tu as l'impression qu'il pite un tour trop tard. Il est devant eux, il se retrouve derrière Stroll et Hülkenberg juste
pourtant,
après le pit stop.
Il s'arrête au 12e, hein, comme Piastri, comme la majorité, hein, comme Verstappen, comme Lando Norris, comme Hamilton, comme Alonso, tu vois, il y a du monde, comme Sainz. Il y a beaucoup de monde qui s'arrête. Alors Hülkenberg avait anticipé, lui, son équipe l'a arrêté au 10e tour.
Ouais.
Je pense que
c'est peut-être là aussi que ça se joue. Ouais.
Mais dans ces cas-là, tout le monde peut un peu finir à la même position que Hülkenberg. C'est surtout Kik Sauber qui a vraiment.
Même Stroll.
Mais c'est là où on voit ce qui est limite, ce que je trouve presque plus impressionnant, c'est le rythme qu'il a eu. Une fois que les stratégies étaient que les dés étaient lancés entre guillemets, c'est-à-dire après
parce qu'il pouvait se retrouver là et perdre sa place
après cette relance où Oscar Piastri, on va revenir dessus, fait son erreur de safety car, où en fait il a un rythme qui est vraiment impressionnant et où même sur la fin de course il arrive à garder et même met plus de rythme que Lewis Hamilton
sur les 10 derniers tours.
Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé impressionnant sur la course de Nico Hülkenberg, parce que dans ces conditions il y a toujours un peu de stratégie et un petit peu de chance forcément, et là ils ont juste été irréprochables de A à Z sur ce Grand Prix, que ce soit le pilote ou son écurie.
Bon allez, on va l'écouter, notre Nico Hülkenberg, un podium après 239 Grands Prix de Formule 1.
Feel happy, feel relieved, also feel pretty,
je suis très empty heureux, right now, je suis soulagé, mais je vous avoue que je suis aussi un peu fatigué parce que c'est une course folle qui a concentré beaucoup d'émotions. J'ai eu un week-end aussi assez compliqué, je suis parti d'une très mauvaise journée, je suis parti 19e en qualif et puis à la fin je me retrouve là. Donc évidemment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, mais je vous avoue que finalement honnêtement j'ai un peu hâte de rentrer chez moi. Voilà. Premier podium après 239 choses, il n'a qu'une attente, c'est son pieu. C'est une manière de voir les choses. Bon, on va enchaîner les amis, parce que c'est vrai, ça a occulté un peu le reste, mais il y a un vainqueur dans ce Grand Prix, c'est Lando Norris. Lando Norris qui gagne deux fois de suite et qui revient à 8 petits points d'Oscar Piastri. Tristan, Lando Norris finalement il y arrive un peu là, il commence à montrer que c'est peut-être un peu derrière lui ce début de saison, on va dire bancal.
On avait des doutes sur sa capacité à enchaîner les bons résultats et il a été dans le rythme ce week-end. Il a été au niveau de Piastri et même... Alors, il remporte le Grand Prix parce que Piastri reçoit une pénalité, mais au final, ça se bat dans les mêmes chronos à peu près. Et non, vraiment, une confiance. Et encore une fois, on parlait de mental. Je pense que cette victoire à domicile, il y tenait beaucoup, j'ai l'impression. Vraiment, pour lui, c'était plus important qu'une victoire à Monaco, qui est souvent citée par les pilotes comme l'un des Grands Prix à remporter. Donc, je pense que ça va lui faire pas mal de bien mentalement aussi. Et ouais, cette bataille pour le championnat, elle est lancée, mais clairement, et ça va être très, très bien à suivre, très, très beau à suivre pour le reste de la saison.
Et alors, Norris gagne le Grand Prix, mais ça veut dire qu'il y en a un qui ne gagne pas. C'est Oscar Piastri, Jean-Luc. Oscar Piastri, on a passé les derniers épisodes de podcast à l'encenser, à dire combien il était injouable, invincible, froid. On commence à déceler quelques petites erreurs ou quelques... Ouais, peut-être pas erreurs, mais... ouais, si, des erreurs de jugement quand même, des petits couacs, quoi.
Ça arrive. Écoute, de toute façon, c'est une petite erreur avec une lourde conséquence.
C'est ça.
Alors, pour revenir sur Norris, juste un petit mot. Il avait dit avant qu'effectivement, il aurait donné ses 7 premières victoires pour une victoire sur son
Exactement.
Territoire, chez lui, puisqu'il l'a dit et redit aussi. Il a regardé gagner Button, etc., Hamilton à la télé, hein, puisqu'évidemment, il est plus jeune qu'eux. Donc, c'est formidable. Écoute, c'est un accomplissement. Et comme il a dit, quoi qu'il arrive par la suite, s'il en gagne d'autres ou pas, celui-là, il l'aura dans son cœur. Et dans sa mémoire à vie. J'en viens maintenant à ta question sur Piastri. Écoute, n'oublions pas quand même que c'était lui qui était en tête, hein. C'était lui qui dominait le Grand Prix jusque-là, après cette pression qu'il avait exercée sur Verstappen. Alors là aussi, c'est logique parce que les choix, évidemment, notamment aéro, étaient beaucoup moins radicaux. Puis surtout, la McLaren, elle va vite tout le temps et partout, quelles que soient les circonstances. C'est elle qui exploite le mieux les pneumatiques, etc. Ça ne diminue en rien le mérite des pilotes, parce qu'on a beau avoir la meilleure mécanique, après il faut le faire. Donc, mais c'était lui le meilleur. Après, il commet cette erreur, effectivement, derrière le safety car. Là, on peut dire qu'il en a fait un peu trop, parce qu'on se rappelle, évidemment, tout le monde se souvient de ce que Russell a fait au Canada, qui ne lui a pas valu de pénalité avec un gros coup de frein. Évidemment, c'était encore Verstappen derrière. Mais là, si Verstappen n'avait pas évité, il le percutait, hein, carrément. Parce que la télémétrie... Vous avez vu, il était, je crois, à plus de 250 et il tombe à 52 km/h. Il perd 200 km/h. Je veux dire, c'est quand même un coup de patin absolument monstrueux. Et si Verstappen ne réagit pas, il l'encadre, hein, et les deux sont éliminés. Donc non, c'est quand même dangereux, surtout que la visibilité n'est pas exceptionnelle. Et puis, à cet endroit-là, avant Stowe, hein, y a un bout de ligne droite, là, on ne s'attend pas forcément à ce qu'un pilote réagisse comme ça, quoi. Donc... il a tiré sur la ficelle, ça fera un exemple, effectivement, l'un d'entre vous l'a dit et il a raison. J'espère qu'il n'y aura plus de manœuvres erratiques comme celle-là. Il ne l'a pas fait exprès, bien sûr, pour planter Verstappen, ou alors il serait complètement abruti, puisque lui pouvait rester, il pouvait rester sur le carreau également. Mais il a poussé le bouchon un petit peu loin. Alors on a vu à quel point il était amer, hein, il était blanc, vous avez vu, il était blanc, il s'est retenu, et ça me désole une nouvelle fois de toute réaction. Pour ne pas être pénalisé, on en est là en Formule 1 aujourd'hui où les pilotes ne peuvent plus s'exprimer. Je trouve ça absolument dramatique. Si on a un mot, un teint, plutôt une seconde, on parlera des élections après. Moi, je trouve qu'en être arrivé à ce résultat-là, c'est absolument lamentable parce que ça nous prive, nous, de réactions humaines, spontanées, intéressantes.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est triste. En revanche, je pense qu'à la place de Piastri... tu viens déjà de perdre une course, t'as pris 10 secondes, c'est pas le moment de te mettre en danger.
Pour McLaren aussi, je pense qu'ils étaient contents aussi, qu'ils ne répondent pas.
Ouais, c'est sûr.
Mais je suis d'accord avec toi.
C'est
ça
regrettable,
manque un peu,
c'est regrettable.
Puisque les auditeurs le savent pas, mais on parlait un peu vélo et Tour de France juste avant de prendre l'antenne. Hier, on a vu Kevin Vauclin au micro, il a gueulé en disant « Moi, je comprends pas pourquoi lui, il a fait n'importe quoi. » C'est vrai que ça donne une fraîcheur.
C'est quand même plus intéressant.
Exactement. Mais on sait que quand apparemment dire un gros mot maintenant tu prends une amende, c'est vrai que ça allait quand même ça permettait de tendre vers une aseptisation globale dont on n'avait pas besoin.
Ça changera
en plus.
À l'avenir, on peut espérer.
On peut espérer. Séraphin, toi, ce petit duel McLaren, il a l'air un petit peu de les forces en présence évoluent finalement là. On est clairement dans une dynamique qui s'est inversée, même si pour le moment au classement c'est toujours dans le même sens, la dynamique s'est inversée.
Là. Exactement. Là, Lando Norris. Marqué des points, des gros points à domicile, ça va rester dans Ça va rester dans les mémoires, Monaco, là, Silverstone. Ils gagnent quand même deux courses d'affilée. J'ai même regardé un peu plus en détail sur les six derniers GP. Norris marque 111 points et Piastri 103. Donc ça montre quand même que là, au niveau comptable, depuis justement Imola, il a pris le dessus sur Piastri, malgré évidemment un abandon au Canada avec son accident. Donc honnêtement, là, Piastri, il voit un adversaire qui finalement remontre un peu ses muscles et ça va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de la saison, je pense, là, une fois qu'on a passé la mi-course, à la mi-saison. Donc ouais, je trouve ça hyper intéressant, c'est très serré entre les deux, ça se joue à des petits détails, genre de choses. Voilà, là, Piastri, il s'est fait avoir. On voit d'ailleurs aussi qu'il a essayé avec son écurie de faire un petit commentaire
est-ce
à la radio,
récupérer la place,
ouais, récupérer la place en disant vous trouvez que c'est pas justifié ma pénalité, alors laissez Lando en passer.
C'était quand même prendre beaucoup de personnes qui avaient rien fait de mal en otage avec son truc. D'ailleurs, il l'a reconnu derrière en disant ouais, bon, en fait, je suis allé un peu loin parce que Lando lui a juste bien roulé, quoi. Donc, s'il était devant, voilà. Ouais, c'est des choses comme ça. Ah bah tiens, d'ailleurs, Lando Norris, on va l'écouter un peu sa réaction à la sortie de sa victoire de son home Grand Prix.
Incredible day, a long race, a long, long Sunday.
Un jour incroyable, une course incroyable. Mais surtout, je pense que je vais commencer à réaliser demain, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment que de l'euphorie. Demain, il y aura eu de la réflexion et je vais vraiment me rendre compte. Je vais me rendre compte de ce qu'on a accompli en tant qu'équipe. Moi, je trouve ça drôle comme fin de son, parce que bon, quand tu vois que l'autre, il n'aurait pas dû gagner si son coéquipier n'avait pas fait un truc un peu bizarre, c'est marrant. Un homme comblé, c'est peut-être aussi des petits éléments comme ça. Quand tu as réalisé ton rêve, son rêve, ça avait l'air d'être vraiment de gagner presque plus qu'un championnat. On ne va pas comparer, ce n'est pas comparable, mais... Tu sentais qu'il avait ce truc-là au fond de lui, un peu comme le PSG avait besoin d'une Ligue des Champions pour aller mieux, tu vois. Lui, il avait besoin de le gagner. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est coffré, un beau trophée Lego, on en reparlera peut-être. Est-ce que finalement, ça n'a pas débloqué quelque chose ? Moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il ne redevient pas même le favori dès aujourd'hui, les amis, Jean-Luc ?
Alors, le favori, non. Je te réponds parce qu'encore une fois, ben non. Et en performance, hein, n'oublions pas que Piastri était devant en qualif et il était devant en course. Alors, il commet.
C'était volontairement provocateur.
Ben oui. Alors, il en paye le prix. Non, il faut les renvoyer dos à dos pour le moment. Ben, enfin, à 8 points près. Hein. C'est rien du tout pour le moment. Surtout qu'on est avec des écarts stratosphériques avec le reste. Hein. On est quand même à 234 points pour Piastri, 226. Et le pauvre, je le plains parce qu'encore une fois, c'est lui qui nous met du piment. Hein. C'est pour ça que je le défends aussi beaucoup. Verstappen n'est qu'à 165. Et l'écart se creuse. C'est monstrueux. Donc, effectivement, Verstappen l'a dit, et là c'est pas un effet de manche, il ne croit plus du tout au titre, il va essayer de remporter un maximum de victoires. Quant aux deux autres, eh bien ça va commencer à gamberger un peu, comme on dit dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'avec 8 points d'écart, bah, effectivement, et comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, bah, le fait de ne pas gagner pour Piastri et le fait que son adversaire direct et coéquipier gagne, c'est 14 points d'écart au total. Et oui, donc là c'est pas du tout la même histoire. Hein. Il creusait un écart qui était, on va dire, pas confortable, mais significatif, alors que là c'est rien du tout, et on va le savoir d'ailleurs dès le prochain Grand Prix qui va, j'espère, être magnifique puisqu'il va pleuvoir naturellement plusieurs fois, qui va être le Grand Prix de Spa et avec un circuit extraordinaire, un des plus beaux du championnat.
Et oui, et puis alors ça rend ce coup de sang, cette folie à la fin du Canada encore plus bête, parce que tu lui dis mais Lando, tu serais peut-être en tête, sûrement même en tête du championnat si tu étais resté tranquillement derrière Oscar lors de ce Grand Prix du Canada. Mais bon, c'est comme ça. En parlant de pilotes qui font des choses un peu étranges parfois, l'enchaînement est tout trouvé avec le GOAT de la pluie, Lance Stroll, qui nous a encore fait des siennes, puisque à chaque fois qu'il pleut sur une piste, il nous fait quand même quelque chose de particulier. Ça reste quand même un phénomène assez intéressant. Et puis, bah, Jean-Luc, c'est pour toi que je l'ai mis sur un plateau comme ça. Tu voulais te le faire, Lance Stroll, je crois.
Oui, mais tu sais, je vais pas vous ressortir la formule. Je le critique pour sa personnalité, parce qu'il sait se rendre parfaitement détestable, il sait être totalement méprisant, totalement gamin capricieux, et puis il faut pas lui enlever, surtout pas ses qualités. Et comme tu l'évoquais, sous la pluie, il va vite. Il va vite et bien. Écoute, lui aussi, il part très loin. Il part 17e. Quand tu penses qu'Alonso part 7e et il termine devant. Non, non, il fait un Grand Prix formidable. En plus, on l'arrête très tôt. Hein. On l'arrête au 7e tour. Alors là, c'est la surprise générale parce qu'il n'y a que lui qui fait ça. On lui met des pneus soft. Alors, il les garde 3 tours. Paf, on le arrête à nouveau au 11e. Alors, par parenthèse, eh bien, on arrête Fernando, lui, pour la première fois seulement au 12e. Et puis bah ensuite le Grand Prix déroule. Non non, il a la même voiture évidemment, peut-être des réglages un peu différents, ça, on n'est pas entré dans le détail, mais il fait un Grand Prix formidable. Moi j'ai cru un moment que c'était lui qui allait le garder le podium. Et puis on voit qu'il perd beaucoup de performances sur la fin, il peut pas résister. Et là aussi le talent qu'il a, c'est qu'il se met pas dehors. Et c'est quand même remarquable. Hein. À un moment, il est sur le podium virtuel. Il voit passer tout le monde. Hein, Hülkenberg, Hamilton, Verstappen, Gasly dans le dernier tour. Et il ne se met pas dehors. Bah, c'est déjà pas mal. Non, non. Au plan du pilotage, là, je trouve qu'il fait également un très, très beau Grand Prix. Bah, parti d'aussi loin, dans des conditions aussi délicates, il commet pas d'erreur.
Ouais, 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 ce qu'il aurait peut-être pu faire par frustration un peu plus jeune, c'est peut-être aussi un peu de maturité. Mais toi quand même, Tristan, il y a quelque chose chez Stroll qui t'a alerté, pour pas dire choqué. C'est sa déclaration à la fin à la radio sur la qualité de sa voiture. Raconte-nous un peu.
Oui, bah, à la fin, Lance Stroll qui n'a pas mâché ses mots, hein, clairement, je vais vous la faire soft, mais qui dit qu'en gros, il n'a jamais piloté une voiture aussi nulle que son Aston Martin. Et on ne peut un petit peu que le rejoindre dans ses propos, parce qu'au final, lorsque les conditions étaient changeantes, que les conditions étaient difficiles, bah, c'était un pilote qui était très rapide, c'était un pilote qui jouait le podium. Et au fur et à mesure, quand ça a commencé à sécher, quand ça a commencé à être plus bah, voilà, une seule trajectoire, simplement enchaîner les tours et au fur et à mesure gagner du temps, bah, on s'est rendu compte que son Aston Martin n'avait pas le niveau. Fernando Alonso l'a très bien expliqué aussi, hein, il l'a dit aussi à ses ingénieurs, c'est à chaque fois avec moi que vous ratez tout. Voilà, beaucoup de frustration. Mais
c'est pas ton papa qui nous paye.
Ouais, voilà. mais et au final, Lance Stroll arrive à finir 7e. Mais oui, pour revenir sur ce que Jean-Luc dit, c'est le seul qui, au final, c'est le seul pilote qui fait marcher ses pneus slick, enfin à qui on fait rentrer déjà au 7e tour, et surtout qui sur 3 tours fait marcher ses pneus slick, alors que les Russell, Leclerc, Antonelli, Hadjar, Biermann, Bortoleto, bon, qui s'est crashé au 4e tour, mais qui avaient mis des slick avant le départ, eux n'arrivaient pas du tout à les faire marcher.
C'était trop tôt en fait, il a fait au bon moment finalement. Mais,
ouais. Et il l'a fait avec des pneus soft qui sont montés en température très vite, donc... Un bon Grand Prix de Lance Stroll et oui, comme Jean-Luc l'a dit aussi, ou toi Louis, il l'a pas mise dans le mur et c'est ça le plus important au final.
Et, est-ce que Séraphin, tu as quelque chose à dire sur notre ami Lance Stroll ou on enchaîne? C'est toi qui décides là, t'es le patron. Là.
Non, je pense que on peut souligner ses performances, mais voilà, on a déjà dit plein de choses sur ce pilote. Donc, là,
il veut pas de problème.
C'est déjà suffisant. Et ben, on va parler maintenant d'Antonelli, le petit Kimi, qui est un peu le joyau de Mercedes, le protégé de Toto Wolff, et qui a clairement du mal ces derniers temps, pour vous refaire un peu ces dernières courses, DNF à Imola. C'est un peu là d'ailleurs que tout commence, dans les malheurs de Kimi, dans sa course, dans sa home Grand Prix lui aussi. Monaco, 18e, difficile. Espagne, DNF de nouveau. Bon, il y a le Canada quand même, voilà, où il va
l'embellit,
il monte sur le podium, 3e, mais finalement c'est quelque chose qu'a déjà fait Nico Hülkenberg, de faire un podium dans sa carrière, donc c'est pas grand chose. Autriche, DNF aussi, et puis le British Grand Prix qu'on a tous vu hier, où il est également DNF. Donc là vraiment, la dynamique est très compliquée. Séraphin, un peu d'inquiétude pour Kimi?
Bah, je mettrais quand même, tu as dit, donc tous ces résultats récents, il y a quand même beaucoup de problèmes aussi avec la voiture. Je crois qu'il fait 2 ou 3 abandons à cause du moteur, ouais. Où c'était compliqué. Imola aussi, la course à domicile où il avait beaucoup de pression chez lui. Et puis là, c'est pareil, ce Grand Prix où en fait il faisait une bonne course. En fait, c'est Isaac Hadjar qui lui rentre dedans. Donc il se prend cet accident. Il fait quand même une erreur en Autriche, on n'oublie pas, avec Verstappen, où là il fait une grosse erreur. Et d'ailleurs, 3 places de pénalité quand même sur la grille. C'est encore des jeunes. On voit il y a beaucoup de rookies, à part Berman, mais il y a eu quand même beaucoup d'erreurs des rookies ce week-end. C'est pas facile. Donc il est là aussi pour encore travailler la course, la maîtrise des pneus sur toute la durée d'un Grand Prix. Donc je trouve que il est un petit peu en dessous de son coéquipier, ce qui est normal, mais j'en garde encore quand même une bonne image depuis le début de la saison sur ce qu'il a fait au tout début, ce podium au Canada. Donc il y a quand même une partie aussi de sa voiture qui a manqué de fiabilité, et je trouve qu'il rentre aussi finalement dans l'interprétation qu'on peut avoir de ses résultats depuis quelques courses. Après, évidemment, c'est à lui à bien rebondir sur la deuxième partie de saison.
Puis il ne faut pas oublier que ce n'est pas de sa faute. Hein. Ce week-end, ce DNF, c'est vraiment malheureux que Isaac Hadjar ne le voit pas et lui rentre dedans. Mais au final, alors peut-être que sa performance était, comme depuis le début de la saison, un petit peu en dessous de George Russell, mais il aurait probablement fini à la porte des points, ou en tout cas, il aurait fini ce Grand Prix s'il n'avait pas été en contact avec Isaac Hadjar. Donc, il ne faut pas être trop dur, je pense, avec Kimi Antonelli sur ce Grand Prix-là, en tout cas. Il y a beaucoup de résultats en dents de scie. C'est dommage, mais c'est un pilote qui a du rythme et c'est un pilote qui doit encore construire sa confiance parce qu'il faut le rappeler, il a passé le bac il y a 3 semaines. Quoi. Donc c'est normal qu'il y ait aussi des moments où il y ait des moments plus bas et il y ait des moments où il ait besoin de plus réfléchir et de vraiment gagner en maturité au volant d'une monoplace.
Pour toi, Jean-Luc, on est complètement dans de l'apprentissage ou toi, tu émettrais quelques... Pas d'inquiétude, mais bon, te dire, bon, quand même, là, faudrait que ça s'arrête.
Non, pas d'inquiétude, c'est le métier qui rentre. Hein. Franchement, ouais. Vous l'avez tous dit et très très bien, je vais rajouter juste 2 petites choses. Il a réalisé un magnifique début de saison jusqu'à Imola, où il l'a dit lui-même très honnêtement, là il a un peu éclaté dans sa tête, hein, effectivement de côtoyer de très près ses parents, ses amis, son milieu. Il s'est rendu compte de ce qui lui arrivait. C'est à partir de là que la mécanique se dérègle un petit peu, alors avec l'exception du Canada que vous avez également souligné, avec cette embellie formidable. Mais c'est dans la courbe ascendante. Maintenant, il faut qu'il remette le bon cap, hein, très clairement, parce qu'en essai, il est nettement dominé par Russell. Il prend 3 bons dixièmes quand même. En course, oui, effectivement, il se fait sortir. Bon, ça, c'est absolument pas de sa faute, mais il est moyen, hein, il n'est pas excellent. Et puis, vous l'avez déjà évoqué aussi, mais je vais déjà le dire, les 5 qui ne terminent pas, c'est-à-dire lui, Hadjar, Bortoleto, Lawson, Colapinto, c'est tous des rookies, hein. Donc il n'y a que Berman qui passe la rampe, donc c'est le métier qui rentre, un Grand Prix très difficile, d'ailleurs Louis tu as peut-être volontairement...
Ah, mais quelle erreur de ma part.
C'est pas une erreur, Louis,
5
je ne
partout,
me permets pas de dire ça.
Tout le monde a dit 5.
Alors non, mais c'est comme l'école des fans, je mets 5, non je ne mets pas 5, mais je mets entre 4 et 4,5, parce que c'est un très très beau Grand Prix, où il y a eu énormément de choses, c'est un Grand Prix quelque part symbolique, où on retrouve, des valeurs solides, et c'est normal que les rookies se plantent dans ces situations extrêmement délicates, extrêmement extrêmes, je vais le dire. Donc voilà, il n'y a rien à dire, et pour en revenir à Antonelli, je suis persuadé qu'il va se regrouper, peut-être dès la Belgique, ou en tout cas j'espère que le break d'août lui sera profitable et qu'il va remettre le cap dans la bonne direction, d'autant que apparemment lui il sait qu'il reste, hein, contrairement à Russell, voilà.
Oui, c'est vrai. Oui, lui il a sûrement son baquet, alors que pauvre George Russell, lui, va commencer à rappeler son impresario. Si tu peux passer 2-3 coups de fil, mon copain. Les amis, on enchaîne avec la Scuderia Ferrari, justement Hamilton qui est passé tout près du podium. Serafin nous avait sorti son pédigré à Silverstone, qui est impressionnant puisqu'il y a toujours été. Charles qui fait une course...
pas bonne, nulle.
Voilà,
faut le dire.
Mauvaise.
Voilà, mauvaise.
Il a dit lui-même. Hein,
donc, ouais. On va en parler. Et puis, on va pas seulement parler des pilotes, mais également de Frédéric Vasseur, puisqu'il y a quelques semaines, dans le paddock, on vous présentait un peu les rumeurs qu'on entendait en Italie, comme quoi il pourrait être sur un siège éjectable, quand bien même, évidemment, ce siège est constamment éjectable. Mais il y aurait peut-être un volte-face, puisqu'il pourrait prolonger et même accroître ses pouvoirs, notre patron Fred Vasseur, notre patron français de la Scuderia Ferrari. Ça serait assez étonnant. Jean-Luc, tu veux commencer peut-être par la course. Parle-nous un peu de Hamilton qui n'est pas sur le podium à Silverstone, ce qui est quand même un tremblement de terre, et puis d'un week-end sans pour Charles.
Bah écoute, oui, la Scuderia n'y est pas malgré tout, et j'avoue que j'ai eu de beaux espoirs hein, en fonction des résultats enregistrés en séance d'essais libres. Après la FP3, vraiment j'y croyais. Et puis Charles s'est clairement loupé, là aussi il a été extrêmement grossier à son égard, hein, juste après ses qualifs ratés, où il termine derrière Hamilton, c'est pas si fréquent. Pas de beaucoup, mais il est derrière. Donc, effectivement, il se prend quelques centièmes. Donc, Hamilton, cinquième temps, et Leclerc, sixième. Et en course, ça va de mal en pis. Hein. Il choisit, lui et l'équipe, enfin bref, je ne sais pas lequel a pris la décision finale, mais il était d'accord, en tout cas, de s'arrêter dès le tour de formation. Et là, sa course était foutue. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Fred Vasseur, avec toute la lucidité et la franchise qu'on lui connaît. Donc, à partir de là, pour ce qui concerne Charles Leclerc, pour moi, c'est son plus mauvais Grand Prix depuis très longtemps. Parce que, pas à hauteur en qualif, parce que normalement il doit être devant Lewis, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et puis en course, il est nulle part avec une voiture rétive, mais il commet plein d'erreurs, il sort au moins deux fois de la piste si c'est pas trois. Enfin bon, il n'y est pas du tout. Donc là, il faut qu'il se regroupe lui aussi, parce que là, il y a un problème. Quant à Lewis, lui, il est plutôt sur une courbe légèrement ascendante. Déjà, je viens de l'évoquer, il est devant son équipier, non seulement en qualif, mais également en course, alors avec une stratégie qui est plus logique. Alors le petit bémol, c'est quand même qu'effectivement, il ne parvient pas à prendre l'avantage sur Hülkenberg. Ça, on va oser dire quand même, ce n'est pas terrible hein, à ce niveau. Alors je sais, on lui a changé les pneus un tour avant, il n'a pas les mêmes non plus, mais bon, c'est moyen. C'est pas encore le grand Lewis, mais bon, il redresse légèrement la barre, il remonte un petit peu au championnat sur son équipier, hein, puisque 103 à 119. Bon, maintenant, il faut que Ferrari continue à progresser. Alors, on nous annonce aussi encore beaucoup d'évolutions pour Spa. Et puis alors là, vous savez ce que je vais vous dire, je la sors chaque année, c'est le juge de paix. Pas Francorchamps à tout niveau. Pour moi, c'est le circuit, autant de pilotes que de voitures. Donc, on va voir ce qui se passe tant en qualif. Si Charles n'y est pas, s'il est devancé par Hamilton, là, c'est grave.
Là, c'est grave. Eh bien, rendez-vous le 27 juillet 2025 pour voir si c'est très grave ou pas. Séraphin, toi, cette quatrième place d'Hamilton, parce que, bon, c'est vrai que quand tu regardes sa carrière à Silverstone, tu te dis c'est nul. Mais quand tu regardes sa saison, quatrième à Silverstone par rapport à la situation actuelle, la pluie, tout ça, c'est une bonne course.
Oui, c'est quatrième. Évidemment qu'un pilote, et surtout lui, il aurait bien aimé monter sur le podium. Mais on a eu effectivement un rythme où, dès les essais libres, on l'a vu très confiant avec la voiture. Et on s'est dit, la Ferrari, elle a vraiment le potentiel si les conditions... en tout cas sur le sec quand c'était les essais libres, il se qualifie devant, et oui, c'est un résultat qui est correct. C'est son meilleur résultat, il égale encore sa quatrième place avec ce qu'on a vu sur le reste de la saison. Cette fameuse statistique qui est incroyable de cet enchaînement depuis très 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 longtemps. Des podiums, il n'était pas vraiment grand chose de le garder, donc on peut que avoir une petite frustration du côté de son équipe. Et après, comme l'a dit Jean-Luc, il va falloir voir aussi le reste de la saison avec les quelques améliorations qu'on va encore avoir peut-être jusqu'à la fin avant de basculer à 100% sur la saison 2026. Ils reprennent quand même un peu plus de points au championnat sur Mercedes, hein. Ils sont à 222 Ferrari pour 209 pour Mercedes. Donc on voit qu'ils gardent pour l'instant depuis 3-4 Grands Prix là cette deuxième place. Ils savent que c'est impossible et que devant l'écart est trop important. Donc il va falloir maintenir ses positions et puis essayer de continuer en tout cas à travailler sur la qualification pour bien se placer en fait.
Peut-être que le grand Lewis dont parlait Jean-Luc aurait attrapé ce podium justement, et que c'est peut-être là que joue la différence. Fred Vasseur finalement qui remet la ceinture sur son siège éjectable. Tristan, t'y crois, tu trouves ça bien, tu penses que c'est le bon truc, ou tu penses que surtout des rumeurs comme ça dans un sens comme dans l'autre, on n'est pas prêt de... Comment dire, on va en entendre beaucoup quoi à l'avenir quoi. C'est le principe du poste.
C'est Benedetto Vigna qui annonce ça. Donc c'est quand même le CEO de Ferrari qui l'annonce que Fred est en discussion avec la Scuderia. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Après, ce qu'on comprend aussi dans cette déclaration, c'est que Fred cherche à avoir plus de pouvoir et que pour l'instant, si le contrat n'est pas signé, c'est probablement parce que Frédéric Vasseur sent qu'il n'a pas encore assez les clés de la maison Scuderia. Et le commentateur italien de la Formule 1, Carlo Vanzini, explique que justement, Frédéric aimerait avoir cette position de patron de la Scuderia Ferrari en F1 et que pour l'instant, il ne l'a pas. Donc, c'est aussi pour ça que la prolongation n'est pas forcément faite. Et après, pour revenir sur la course de Ferrari, je trouve que le week-end de Lewis Hamilton est très mitigé parce que sans cette erreur dans les derniers virages de qualification, au final, il aurait pu faire une très bonne qualification et se mettre devant George Russell et peut-être entre les deux McLaren. Et on sent qu'il a ce manque de confiance peut-être avec l'équipe pour prendre certaines décisions à certains moments et aller chercher ce podium en tentant des choses différentes. Après, ce qui est surtout regrettable ce week-end, c'est le week-end catastrophique de Charles Leclerc parce qu'en qualification, il n'y est pas du tout. Et il se rate lui aussi dans les derniers virages. Et puis on a eu une course typiquement Charles Leclerc sous la pluie, incapable de faire les bons choix, les bonnes stratégies dès que les conditions sont changeantes. C'est lui, Jean-Luc, qui prend le choix de s'arrêter au premier tour. Alors ils ont été plusieurs à le prendre. De ça, on peut pas forcément lui enlever qu'il faut tenter certaines choses, surtout qu'il part sixième. Donc au final, il y a pas énormément à perdre. Mais derrière, il a été perdu sur toute la course. La Ferrari ça allait pas mais lui non plus, il se prend de l'eau dans le casque, on ne sait même pas comment, lui non plus il sait pas comment, donc non, vraiment un week-end très compliqué pour Charles Leclerc, mais on sait aussi que c'est un pilote qui dès qu'il a un week-end compliqué est capable de justement rebondir très fort, et Spa-Francorchamps ça fait partie de ces circuits où il est justement très rapide, donc j'en attends beaucoup de la Scuderia dans 3 semaines.
On va enchaîner les amis avec le tremblement de terre de la semaine. Max Verstappen a fait une erreur, et alors ça faisait quand même un moment qu'on l'attendait, parce que, enfin qu'on l'attendait, pas dans le sens qu'on attendait qu'il fasse une erreur, mais plus ça faisait très très longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire quelque chose comme ça, surtout dans un endroit où les autres ne l'ont pas fait. Donc pour raconter un petit peu, Séraphin, décris-nous la scène, c'est une histoire de tête à queue à la relance.
Ouais, c'est là, au moment de la relance justement, donc c'est au 21e tour. Il y a la relance justement après le crash de Isaac Hadjar qui a mis une safety car sur la piste. Et donc oui, Verstappen qui est à ce moment-là troisième et qui fait leur accélération, donc un tête à queue. On voit que c'était humide. Il la récupère quand même rapidement et il vient se replacer juste derrière 9e, je crois collé à Williams. C'est rare, effectivement, tu l'as dit, de voir Verstappen faire une erreur, surtout qu'on sait que sous la pluie aussi, c'est quand même un très très bon pilote, de façon globale. Il fait aussi une autre petite erreur, je me souviens, c'est sur Lando Norris qui est derrière lui et Verstappen qui prend l'extérieur sur un virage. Il sort un peu de la piste et finalement il rattrape sa position avec juste après où on a l'arrêt des stands quand il pleut et il réussit à... Norris rate son arrêt au stand, l'écurie McLaren fait un arrêt trop long et du coup Verstappen reprend sa position. Donc oui, donc effectivement une autre petite erreur aussi du côté de Verstappen. Et derrière, il réussit à remonter, il finit cinquième. Donc il réussit quand même derrière à faire la différence et à remonter. Mais oui, c'est sûr que ça fait mal parce qu'il partit en pole position. Jean-Luc l'a évoqué, ils ont quand même fait un choix intéressant du côté de Red Bull avec cet aileron très peu chargé en aéro. Et donc une voiture très rapide dans les lignes droites et dans les longs virages. Donc ils avaient tenté un truc intéressant avec une voiture qu'on n'arrive pas à estimer à positionner parmi les autres voitures. Et il faisait une course qui était très bonne, je trouve, honnêtement, même si à un moment donné, Piastri réussit à le doubler au début. Mais ouais, c'est une erreur qui lui coûte cher, évidemment, puisque toutes les voitures sont recollées. Donc voilà, en tête à queue, on perd la moitié du classement d'un coup.
Et du coup, Jean-Luc, moi, ma question, c'est est-ce que c'est pas des petits signes avant-coureurs d'une... tu vois, ça va un peu dans le sens de ce qu'il a dit ce week-end. Il est loin, il commence à être loin au classement. Le Grand Prix d'avant, il se fait rentrer dedans. T'as l'impression que bon, ça lui a pas fait grand-chose. Mais c'est le gamin, là, ça arrive à tous les gamins, il n'y a pas de souci. Voilà, on a connu un Verstappen, peut-être qu'il est dans une phase aussi un peu de lassitude, Jean-Luc, ou j'en vois trop là?
Je ne crois pas que ce soit ce mot-là. Je pense que, de toute façon, le titre est perdu. Ça, il l'a compris, il est lucide, comme d'habitude, au rasoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de gagner des grands prix et de décrocher des pôles. Et on rappelle quand même sa pôle étincelante, hein, avec un choix, oui, radical évidemment en aéro, mais c'est comme ça, quoi. Ça a toujours existé en Formule 1, évidemment. Hein. On en parlait un petit peu moins il y a quelques années, mais là, on fait un choix comme celui-là. Comme, une nouvelle fois, les écarts sont très limités, un choix comme celui-là, eh bien, ça se solde avec un talent, pour moi, unique sur la grille de départ de Verstappen, par une pole formidable. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, effectivement, en course, bah, il fait ce qu'il peut au début. Et comme ça a été évoqué à plusieurs reprises aussi, bah, quand il voit le dimanche matin ce qui tombe, et quand il voit que ça ne cesse pas, alors que les prévisionnistes ont prévu normalement qu'il pleuve le matin, mais que ça s'assèche, et pour l'après-midi, les chances de pluie, c'est 20%. Donc le choix, il était tout à fait judicieux, hein, de la part de Red Bull et de la part de Verstappen. Et là, il se dit, bon, bah, on est parti pour une belle partie, là, ça ne va pas être drôle du tout. Et c'est ce qui se passe. Alors, il résiste 9 tours, il se fait passer. Et puis là, je rappelle qu'avant, il y a eu ce fameux coup de frein intempestif, on va le qualifier comme ça, de Piastri, qui le met quand même en colère. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Surtout que, bon, Russell lui en a fait un autre au Canada. Il dit, ça commence à bien faire. Donc, quelque part, il a une petite montée d'adrénaline. Je pense que le mot est faible. Et donc, il se retrouve derrière. Et puis, en plus, il se dit, maintenant, parce que là aussi, c'est ça la Formule 1, est-ce que moi, je vais pas prendre une pénalité? Parce que j'ai dépassé le leader, et j'ai dépassé le leader sous régime de safety car. On ne sait jamais, hein. C'est tellement parfois des décisions totalement erratiques de la direction de course. Et s'il faut, c'est encore moi qui vais en prendre. Donc, il n'est pas dans son état normal. Vous savez également que maintenant, la procédure de remise en vitesse est un peu complexe. Or là, bah, on passe de, je le répète, 250 km/h à 50 km/h. Donc, c'est pas pour expliquer, ou encore une fois, ou lui pardonner, mais c'est pour justifier son erreur. Et donc, il n'est pas dans les bonnes dispositions et il fait une bêtise. Bah, là aussi, il fait une grosse boulette. Seulement, lui, il fait seulement un demi-tête-à-queue, pas un tête-à-queue complet. Il se retrouve 10e et il a le temps quand même, en moins de 30 tours, de remonter 5e. Voilà, que dire, bah, c'est un diamant brut, mais il n'a pas le matériel pour le prouver.
Ouais, bon, il l'a eu. Il l'aura peut-être de nouveau.
Bah, il l'aura peut-être de nouveau.
Tristan, toi, tu me disais juste avant la preuve que c'est une pompe à vélo, Verstappen.
Une pompe à vélo.
Alors, on ne me fait pas porter.
Ah, je suis persuadé qu'il n'a pas dit ça.
qui lui fait dire des choses affreuses. On va terminer, les amis, avec évidemment, parce que vous savez que c'est mon moment préféré, c'est le point sur les Français. Et on va commencer, on va commencer par l'autre driver of the day. Évidemment, le driver of the day, ça a été Nico Hülkenberg. Et je crois qu'il y avait une certaine unanimité. Mais l'autre, et en tout cas pour moi, ça a été Pierre Gasly, qui nous a fait une course, Tristan, d'une solidité qu'on lui connaît, mais qu'on a eu extrêmement plaisir à revoir hier.
Ben, Pierre Gasly, il est arrivé au circuit jeudi, il a commencé, dès qu'il a fini le Media Day, de faire une danse de la pluie qu'il n'a pas arrêté du week-end, même le samedi soir. On a eu des vidéos de Pierre qui fait les danses de la pluie. Non, bien sûr, je rigole, mais il n'y avait aucun espoir pour Alpine ce week-end, ils étaient nulle part. On a appris également qu'Alpine ne ramènerait plus d'amélioration sur cette voiture et que désormais c'était à 100% focus sur la voiture de 2026. Et donc Pierre n'avait pas forcément beaucoup d'espérance. Au final, il arrive à mettre son Alpine en Q3 sur le sec. Incroyable, impressionnant. Enfin, vraiment, ça fait partie des qualifs, des performances des pilotes qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont vraiment exceptionnels. De mettre cette Alpine avec ce plateau aussi serré en Q3, c'est vraiment très fort de la part de Pierre. Et oui, derrière, après une course, bah, il est normand, hein, donc la pluie, il connaît un petit peu, je pense, et on l'a vu ce week-end. Il a vraiment réussi à tirer le meilleur parti de son Alpine le dimanche. Et c'est Franck Montagny qui disait il n'a pas piloté à 100% son Alpine, il a piloté à 1000%, et je suis totalement d'accord. Il a été parfait. Et Alpine, il faut aussi le saluer, a été parfait sur la stratégie. Ils ont fait tout comme il fallait pour que le pilote réussisse au mieux ce week-end. Donc non, bravo. Et puis on parle souvent de mental avec Oscar Piastri et Lando Norris. Bah, mine de rien, je pense que mentalement, pour l'équipe Alpine, c'est bien aussi de voir qu'ils peuvent réussir à performer. Malheureusement, on a de l'autre côté du garage Colapinto qui la met dans le mur le samedi et qui le dimanche n'arrive même pas à prendre le départ à cause d'un problème de boîte de vitesse. Mais vraiment positif ce week-end, en tout cas de la part de Pierre Gasly. Un peu triste de savoir que Alpine, ça va être de plus en plus compliqué cette saison par contre.
Oui, mais moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit franchement, si vous avez les moyens, c'est-à-dire de terminer dernier, puisqu'on sait que quand tu termines dernier, bah, tu reçois moins. si vous avez les moyens de, comment dire, d'encaisser cette perte, mais évidemment, quand tu es à la rue complet, bah passe sur la voiture de la prochaine réglementation et on verra bien quoi. Mais là, ça serait beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent pour passer de dernière écurie à avant-dernière. Wouhou ! Je suis pas sûr que... Enfin, en tout cas, moi, si j'étais à la tête d'Alpine, bon, surtout, il serait encore plus dans la mouise qu'actuellement, mais je partirais...
C'est pas possible.
je partirais sur 2026 plein fer, plein gaz, comme dirait un collègue de l'antenne. Jean-Luc, franchement, ce Pierre Gasly, je veux pas en faire trop non plus... Mais il a la tête dure, hein. Il est quand même assez incroyable parce que c'est pas la première fois qu'il nous prouve qu'il est capable de pas faire d'erreur, bien que tout y était pour en faire en fait. Il est impressionnant.
Bah, c'est remarquable, hein. Un vainqueur de Grand Prix tout simplement, et à Monza, c'est pas rien. Donc on connaît les qualités de Pierre depuis longtemps, sincèrement. C'est un excellent pilote, là aussi un des meilleurs de la grille. Maintenant il pilote une trapanelle épouvantable et il en tire le meilleur. En qualif, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, en plus il n'est même pas dans une sérénité mentale. Alors bon, là on a recruté enfin un vrai patron de l'équipe, hein. Bon, qui a roulé sa bosse dans toutes les équipes à la FIA, etc. Nielsen, on va voir ce que ça donne. Puis de toute façon, il arrive au 1er septembre, donc tu as compris, hein, il ne faut pas s'attendre à des résultats le temps qu'il constate.
Lui aussi, il est
déjà
sur 2026, je pense.
Complètement, il a été recruté pour ça. Donc là, ils vont souffrir, ils vont faire le gros dos, et puis Pierre va continuer à essayer de réaliser des exploits personnels en qualification, parce que c'est le cas, donc c'est en fait le 10e temps, hein, qu'il avait signé. Il se retrouve 8e avec le déclassement d'Antonelli et des autres.
Et Berman.
Et les pénalités de Berman, voilà. Mais bon, et après en course, là aussi dans une configuration très difficile, très compliquée. Là, pour le coup, l'équipe ne fait pas d'erreur. Hein, on l'arrête au 12e, au 42e tour. Et lui fait un remarquable travail. Il va même jusqu'à parvenir à prendre l'avantage sur Stroll dans le dernier tour. Bah écoute, sa combativité n'est pas à mettre en doute. Son talent non plus, sa détermination non plus. Bah c'est lui qui tient la baraque, hein, pour être clair. Heureusement, il y a au moins un pilote, non pas dans l'avion, mais dans la voiture.
Oui, parce que malheureusement, on a du mal à voir en quoi son coéquipier pourrait
qui
l'aider.
Enfin,
c'est coéquipier, parce qu'on en est au deuxième de la saison.
Tu parles de Jack Colapinto ou...
Il y a quelqu'un dans le garage d'à côté, j'ai pas vu
ou,
moi ce week-end.
Ou de Franco Douane.
Qui est ce Franco Douane là dont tout le monde me parle? Ouais, c'est un peu ça. Séraphin, toi, tu me disais qu'en tant qu'amoureux de natation synchronisée, t'avais beaucoup apprécié la danse des deux voitures As hier, se touchent dans un virage qui est quand même un petit peu ridicule, mais vraiment aller voir sur les réseaux l'image au ralenti de ces deux voitures, vraiment, mais
c'est magnifique.
Ah, c'était très
c'est une valse.
Ouais, c'est
une valse.
C'est ça, c'était très 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 beau. Non, plus sérieusement, Ocon, c'est encore un week-end compliqué, bien que j'ai quand même la sensation que lui, comme d'hab et comme Pierre, c'est ça vient pas de lui les problèmes, quoi. Lui, il est toujours là, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Séraphin?
Il est toujours là. C'est difficile avec une voiture qui réagit différemment d'une course à l'autre. Ça fait partie de, justement, quand on voit des pilotes faire des performances comme ça avec des voitures qui amènent pas des résultats mitigés, ça, voilà, c'est important, ça marque les esprits. Effectivement, je pense que là, Pierre Gasly, moi, je sais pas de son côté qu'est-ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le seul à marquer les points, tout simplement, et à tenir à bout de bras cette écurie. Donc j'espère que ça va être remarqué aussi un peu des autres écuries, tout simplement, et que finalement, maintenant que la maison brûle, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il aille voir autre part et...
Moi, je me dis, quand j'entends un peu ce début de silly season, de peut-être de mercato, de gros sièges qui se libèrent, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il a atteint un niveau, une maturité, un mental, et il l'a prouvé aussi, qui devrait vraiment le remettre sur les shortlists des grosses écuries. Alors peut-être pour un second baquet, parce que malheureusement, on est dans un truc aujourd'hui où... elles ont tout un leader et puis malheureusement il est peut-être un peu trop catégorisé comme midfield.
Faut qu'il retourne chez Red Bull.
Mais moi, si Verstappen part, c'est-à-dire que s'il y a plus, on va dire, la comparaison impossible du diamant brut machin, et qu'il y a, on va dire, deux pilotes qui prennent les baquets à part Max Verstappen, Ben moi, Gasly, pour moi, il peut tordre n'importe qui dans ce baquet-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis peut-être un peu trop optimiste. Mais si Verstappen reste chez Red Bull, il ne faut pas qu'il y retourne. mais pour tout le reste, si, parce qu'il y aura table rase. S'ils perdent Verstappen, ils ne vont pas continuer à faire une voiture hyper pointue pour un mec qui est parti. Donc, il y aura peut-être aussi des évolutions, Tristan, non ?
Le problème, c'est que la réglementation 2026 va apporter tellement de nouveautés pour toutes les équipes qu'aujourd'hui, c'est très dur de savoir qui sera la meilleure équipe en 2026 ou qui jouera les victoires en 2026. L'avantage que Pierre Gasly a aujourd'hui, c'est qu'il sait qu'il aura un moteur Mercedes en 2026. Et aujourd'hui, d'après les rumeurs...
S'il reste.
Mais d'après les rumeurs, le moteur Mercedes semble le meilleur. Est-ce que Flavio Briatore lui a apporté des pièces convaincantes sur le niveau d'Alpine en 2026 ? Peut-être. Après, est-ce qu'il doit aller dans une autre équipe ? C'est aussi une opportunité peut-être à saisir. Le problème aujourd'hui de Pierre Gasly, c'est qu'aller dans une grande écurie, mais ne pas faire partie d'un programme d'écurie comme l'a fait iDriver Academy, la Red Bull Junior Academy, des choses comme ça, c'est très dur parce que Pierre Gasly est au final un pilote qui a beaucoup d'expérience, mais qui n'a gagné qu'une seule fois. Ce n'est pas malheureusement un leader de grand team comme pourrait l'être un Lewis Hamilton, un Charles Leclerc, un Lando Norris. Voilà, des pilotes qui ont acquis énormément d'expérience pour se battre pour des victoires. Et c'est un petit peu le problème qu'a Pierre Gasly, c'est que, tu l'as un peu dit, il est trop vu comme un pilote du midfield. Il est trop vu comme un pilote qui se bat pour les points et non pas pour les podiums. Et c'est aujourd'hui, je pense, la position qui peut un peu le défavoriser. Il faut espérer que sur la fin de saison, il continue ce genre de performance avec l'Alpine pour continuer à se montrer, ça c'est sûr.
Et c'est vrai qu'on voit que c'est un peu la seule chose qui le différencie de ceux que tu as cités, comme Leclerc ou Norris. C'est que lui finalement n'a jamais vraiment eu le temps avec une voiture compétitive parce que sinon ils ont des enfances, adolescences similaires, ils font partie un peu du même panier générationnel des talents purs de la génération. Donc c'est vrai que lui, à cause un peu de ce passage Red Bull, qui, même s'il n'aurait pas pu s'en sortir mieux que ce qu'il n'a fait, c'est obligatoirement, ça lui a fait mal dans sa carrière. Sinon, c'était potentiellement un tout droit. Le baquet Red Bull, il aurait sûrement une autre carrière, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'en Formule 1, tu te retrouves, il y a des baquets qui vont être donnés à des rookies qui n'ont jamais rien fait. Et parce qu'on dit, ouais, mais en F2, il est bon, et puis machin, et puis il a un sponsor, et puis il a 18 ans, donc en fait, il va être vachement meilleur. Et tu te dis, ouais, mais là, à date, comme ça, un gars comme Gasly, il est hyper solide, quoi.
Le temps passe vite, hein, Louis, c'est ce que j'allais rajouter. Il va avoir 30 ans,
c'est ça.
Tu te rends compte ?
Début
de la saison prochaine. Eh oui. Mais sincèrement, et comme tu le soulignes, effectivement, il y a un jeunisme. Enfin, encore un ou deux grands prix comme celui qui vient de se dérouler, puis ça va se calmer en Formule 1. C'est des modes. Hein. Donc, non, mais blague à part, je ne pense pas évidemment ce que je viens de dire. C'est juste de la provoque pour vous faire réagir. Non, mais on ne peut pas tout miser sur des gamins de 18 ou 19 ans. La preuve, quand ça devient un peu compliqué, il faut un peu de métier. Pierre en a beaucoup, effectivement. Moi, je croyais que tu allais faire le parallèle avec Esteban, Ocon, parce que c'est les deux mêmes. Les deux sont normands, ils ont quasiment le même âge, ils ont des carrières parallèles, ils ont une victoire chacun. C'est pas des têtes d'affiche, comme tu
et
dis.
Et Esteban n'a pas eu, lui, encore plus, il n'a pas eu les 6 mois dans une voiture compétitive, tu vois. Il a même pas eu ça, lui. Il a vraiment eu à chaque fois des garages compliqués, quand même, le pauvre.
Bien sûr, mais il en tire, comme on le voit, le meilleur, surtout en course. C'est ça l'expérience, le métier, la ténacité. Parce qu'on a vu encore qu'en qualif, il a été dominé par Berman. Berman a pris sa pédalité, mais il était plus rapide que lui. Et ça, c'est quand même étonnant, parce que en qualif, on peut pas dire qu'il soit vraiment à l'arrêt, Esteban. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pour en revenir au sujet de Pierre, je crois que à sa place et à celle de son manager, j'irai voir ailleurs ce qui se passe le plus rapidement possible. Mais bon, ça n'engage que moi.
Dès 2026 ?
Possible, oui. Sincèrement, si possible, oui.
Le verrais où, par contre, Jean-Luc ?
Écoute, il y a tellement de gros pions à déplacer, comme on l'a vu. Gros pions, c'est pas péjoratif, mais c'est évident que le maître de la manœuvre, ça commence par un V et ça termine par un N. Lui bouge pour aller, parce que je répète toujours, si c'est effectivement chez Mercedes, on parlait de moteur il y a un instant et de moteur Mercedes. Alors je voulais juste rebondir sur ça aussi, parce que pour moi, c'est de la manipulation et donc de la communication. Qui peut dire aujourd'hui que le moteur Mercedes va être le meilleur, à part Mercedes, entre nous ? Franchement, vous y croyez une seconde ?
Je pense que de toute façon,
on ne peut pas savoir. Personne ne peut savoir. Pourquoi le moteur Ferrari ne serait pas le meilleur? Bon, je ne parle pas de feu le Renault. Pourquoi le Honda chez Aston?
Le Ford.
Oui, non, mais alors ça, c'est un autre débat, j'allais y venir. Mais pourquoi le Honda, qui est un excellent moteur, vous êtes bien d'accord? Parce qu'il y a tout l'environnement qui compte. Hein. Maintenant, le moteur, ou plutôt le groupe propulseur, il faut l'appeler comme ça, puisqu'il y a 6 éléments différents. Bon, bah, l'ensemble doit constituer quelque chose de performant, et vous le savez bien, la récupération de l'énergie avec les nouvelles contraintes de l'an prochain, et le fait de régurgiter cette énergie sous une autre forme, ça va être ça la clé. Qui peut dire que Mercedes aujourd'hui, c'est pas pour contrer hein, gratuitement, mais qui peut le dire à part Mercedes? Donc ça s'appelle se créer une réputation en partant de rien. Parlez-en à Fred Vasseur, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il va éclater de rire.
Bon, pour finir les amis, j'ai pas été très bon là dans mon conduit puisque je finis avec un point négatif, mais on va dire un mot quand même sur Isaac Hadjar, Séraphin, pas dingue là pour le coup.
Isaac, oui, bah c'est sûr que ça fait mal hein, dans un abandon comme ça lui est arrivé. Quand on voit la caméra, effectivement, malheureusement, c'est monoplace qui ont un spray d'eau énorme. Quand des conditions comme ça, il pleut énormément. Et même lui, il l'a dit, il a un peu mal jugé la situation. Il a cette petite marge de sécurité en plus qu'il n'a pas forcément pris. Et donc, il fait une erreur bête en rentrant dans George Russell. C'était compliqué. Il fait une qualification. Je crois qu'il part en Q2, c'est ça. Il part pas dans le top 10 en tout cas. Mais voilà. Donc il va falloir.
Il est
12e. Donc il enchaîne là une course plutôt mitigée depuis quelques grands prix. Encore une fois.
Ça fait 3 grands prix qu'il n'y est plus vraiment. Hein, là, voilà. Clairement.
Mais je pense pas que c'est de l'inquiétude. Il a montré depuis le début de la saison une régularité. Il va falloir voir sur le reste de la saison. Il y a encore beaucoup de grands prix à faire. Donc là c'est une course à oublier évidemment. Il va apprendre de son erreur hein, justement. Voilà, il a bien placardé quand même la voiture.
Il y aura des frais. Hein. Il y aura des frais.
Mais au final, moi ce qui m'a le plus énervé dans mon canapé, c'est qu'on ait mis cette safety car pour la sécurité des pilotes, enfin en tout cas c'est ce qu'on a compris, ouais. Et que Isaac Hadjar se sort parce qu'en fait la safety car a regroupé tout le peloton et que les écarts naturels qui s'étaient créés, on avait sur le peloton avant la safety car entre 1 et 2 secondes et parfois plus, donc avec un spray qui peut redescendre, là on les a tous regroupés à peu près en moins d'une seconde tous, et derrière, bah, qu'est-ce qui arrive? Bah, forcément, il ne se voit plus, parce que quand vous avez le premier qui est à 10 secondes du dixième, bah, y a toujours le spray du premier, en plus des 9 voitures entre lui et le premier. Donc ça, pour le coup, ça, c'est ce qui m'a un peu énervé quand j'ai vu l'accident de Isaac, parce qu'on a voulu au final protéger les pilotes en leur mettant la safety car, parce qu'on avait effectivement beaucoup d'eau qui tombait à ce moment-là. Mais derrière, bah, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des conditions parfois même plus dangereuses.
Et d'ailleurs, moi je suis d'accord, c'est vraiment étonnant parce que ça a été dit d'ailleurs, il y avait un train de pneus encore au-dessus. Il y a quand même les full wets. Alors, c'est des pneus qui ne fonctionnent pas.
Ah oui,
et pourquoi on ne les a pas utilisés? Et pourquoi on décide de ah non, c'est trop dangereux? Voilà.
Parce qu'on surprotège les pilotes.
Non, c'est vrai que c'est un peu un vrai choix qui est discutable.
Parce qu'on ne met pas assez la pression sur Pirelli, surtout pour qu'il fasse des pneus qui soient capables de rouler aussi mieux que les intermédiaires. Et que oui, au final, au bout d'un moment.
Franchement, il faut mettre les wets. Où est le problème?
Il faudrait une règle où il y a un certain niveau d'eau aussi, où on oblige les équipes à mettre les pneus, parce qu'en fait
c'est leur choix.
C'est leur choix, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on donne un pneu aux équipes qui ne sert pas. Donc en fait,
mais
les équipes
ne veulent pas l'utiliser.
Oui, mais dans ce cas-là,
c'était le cas typique où il fallait mettre les full wet.
Oui, mais il faut trouver une solution plutôt que de sortir des safety cars, parce qu'au final, les safety cars, ça ruine entre guillemets la course, ou en tout cas, ça peut la modifier totalement avec des changements de stratégie, etc. Donc, et c'est artificiel parce que pour le coup, il y avait rien sur la piste à part les conditions. Bah, qui pouvait réellement mettre en danger les pilotes. Enfin, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de pilotes qui étaient arrêtés.
C'est un peu le côté moutonnier de la F1, tu vois. Moi, j'aurais aimé Verstappen, quitte à faire des choix radicaux, lorsqu'il s'arrête au 12e tour, c'est pas les intermédiaires qu'il fallait monter, c'est les full wet pour voir. Alors, je sais que ça se dégrade très très vite, effectivement, mais là, il était annoncé clairement, et les trompes d'eau commençaient à tomber, on est bien d'accord, hein, qui ont eu leur paroxysme aux alentours du 20e tour. Bah, moi, je peux vous dire que s'il y en avait un qui avait eu... Ça commence par un C aussi, hein, mais je vais dire le courage pour pas me prendre 20 000 dollars d'amende. Les coronesses, comme on dit en espagnol, ça passe mieux, de monter des full wet lors de l'arrêt au 12e tour, eh ben, on aurait peut-être vu une course totalement différente pour celui ou cela.
Oui, mais dans ces cas-là, si on met les full wet, la question aussi qui se pose, c'est les équipes, désormais, elles savent que la safety car sortira s'il y a trop de pluie. Donc pourquoi mettre les foulouettes au final? Parce que dans ce cas-là, si un pilote,
c'est ça
le problème, c'est que là ils viennent de créer un précédent que toutes les équipes vont utiliser et où en gros ils vont se dire bah on sait qu'on mettra jamais les foulouettes parce que si à un moment il y a des conditions foulouettes, et ben on sortira une safety car. Donc en fait la FIA elle s'embourbe dans une situation actuellement catastrophique.
Une nouvelle fois, et je leur remets un coup sur la tête, on surprotège les pilotes. Je suis désolé, mais puisqu'on célèbre les 75 ans de la Formule 1, bah pendant des dizaines d'années, jusqu'à, on va dire, il y a très peu de temps, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Je suis désolé.
Bon, bah on a un peu digressé depuis Isaac Hadjar. Moi, je voulais juste revenir sur votre analyse. Là, je vous ai tous entendu. J'ai un petit bémol quand même. J'ai bien regardé les images et en fait, c'est Kimi Antonelli qui rentre en marche arrière dans Isaac Hadjar et tout est de sa faute. Non, mais je préfère préciser parce qu'il
a éteint ses feux même.
Oui, voilà. Parce que Isaac ne fait pas d'erreur. Voilà, je vous le dis. Bon, on va terminer là-dessus, les amis. On va terminer sur. Sur ce petit point des Français, évidemment, on va se retrouver dans un petit moment. Pas tout de suite, parce qu'il y en a certains que j'ai pas envie de revoir tout de suite. Alors, évidemment, c'est juste qu'il n'y a pas de Grand Prix. On se retrouve le dimanche, enfin pas le dimanche, mais le week-end du 27 juillet pour le Grand Prix de Spa, le Rédillon, le Rouge, Pouhon... Et tutti quanti.
La pluie.
La pluie, évidemment. Évidemment,
et,
ça.
Excuse-moi, Louis, mais moi, sur mon calendrier, là, j'ai bien 17-19 juillet. Hein.
Eh ben, nous, moi, j'ai 24-27. Alors,
ah, c'est 24-27, ouais.
Alors, attends, on va se caler.
Il y en a un qui va passer un week-end à chercher le spa et qui va pas le trouver.
Jean-Luc va commenter le vide, là.
Ouais, bah écoute, alors, ok. Bah, j'avais pourtant un calendrier FI, hein, tu vois.
Bon.
C'est pas grave.
En tout cas, c'est le week-end du 24 juillet, puisque le jeudi 24, on va se retrouver pour un warm-up, évidemment. Mais d'ici là, n'oubliez pas notre page Insta et TikTok qu'on va inonder pendant 15 jours de contenu. Autant vous dire, les copains, ça va y aller. Ça va parler de Spa, de l'histoire de Spa. Ça va parler des nouveautés. Si une grosse news tombe...
Autant pour moi, t'as raison, ça y est.
Ah, c'est bon.
Autant pour moi.
Ils ont décalé d'une semaine, je crois. L'année dernière, c'était une semaine plus tôt.
Tu vois, je suis tellement impatient d'arriver à Spa.
Mais ça, je comprends. Parce que je pense qu'on est unanime. Moi, perso, c'est mon préféré.
Et dire que c'est le dernier avant le début de l'alternance.
Arrête.
Moi, j'y vais justement à Spa parce que c'est un circuit magnifique.
Et Séraphin, tu seras sur place en plus. Donc, lors du week-end de Spa, mais on aura le temps de vous en reparler puisqu'on sera de retour le 24, tu pourras alimenter ce compte RMC Formule 1 qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de faire rêver. Je vous souhaite à tous un bon mois de juillet. Pendant qu'il n'y a pas de F1, il y a le Tour de France, donc tout va bien, vous n'êtes pas perdus. Salut les gars, merci à vous.
Ciao,
salut, merci à tous.
Allez, n'est pas Racing Cube.
Le paddock RMC.